Africa. Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio. Africa.
Hey, salut à tous et bienvenue à l'émission que vous décortiquez pour vous décortiquer toute l'actualité du football africain sur le continent et hors du continent. Une actualité bien remplie avec les résultats et les commentaires sur les matchs amicaux qui se sont déroulés à travers les continents. Les matchs amicaux de nos sélections africaines, bien sûr. Ensuite, nous irons du côté du Brésil et voir comment il se comporte. Il, c'est Salomon Kalou, l'international ivoirien qui évolue à Botafogo. Enfin, nous ferons un tour d'horizon sur les transferts des Africains dans les clubs. Aujourd'hui, pour vous présenter tout cela, le doyen Willy Dorkono. Bonsoir, doyen.
Bonsoir, mon coach. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, Chris. Et bonsoir, Hakim.
Hakim Djelouat, bonsoir.
Bonsoir, Lamine Badiane. Bonsoir à tous les auditeurs d'Africa Radio depuis le continent et depuis le reste du monde. Et bonsoir à Willy Dorkono, à Christian bonsoir. Et également à Valentin
Larrive. Ouais, justement, Christian, bonsoir.
Salut, coach. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à tous les auditeurs. Coach, voilà. J'espère que ça va. J'ai vu que vous avez perdu le Sénégal, donc j'espère que ça va.
Il n'y a pas que lui.
Mais oui, mais attends, c'est l'hôpital qui se moque de la du dispensaire ou c'est le contraire là.
Ouais,
ils en ont pris trois, eux.
Oui, mais il y en a qui n'ont même pas joué.
Ah, ben oui, alors donc.
Moi, j'ai intérêt à me taire.
Et une présentation, bien sûr, de vos serviteurs, Lamine Badiane. On revient tout de suite après le jingle. Ah, je crois que ça n'a pas été le cas. Ouais, but. Ils en ont pris trois contre le Burkina Faso. C'est le cas de le dire. Messieurs, ce week-end, nous avons assisté à de nombreux matchs amicaux sur le continent et hors du continent, avec des matchs qui ont débuté dès jeudi. Hakim, est-ce qu'on peut avoir dès jeudi les matchs amicaux qui se sont, par exemple, l'équipe de Côte d'Ivoire qui a joué contre la Belgique, et on va décortiquer après avec Christian Chango tous les restes de ce week-end.
Oui, alors on a effectivement des matchs qui ont commencé avant jeudi 8 octobre, hein, le mercredi 7 octobre avec Andorre-Cap-Vert.
Ouais.
Le match s'est soldé par une victoire pour le Cap-Vert du côté de Andorre, avec des buts de Carlos Ponk et Ryan Mendes. La Zambie qui s'est imposée face au Malawi. La Zambie qui s'est imposée face au Malawi 1-0, c'était du côté de Lusaka, avec un but de Collins Sikombe.
Ensuite, on a eu du côté de sur le jeudi justement, ça c'était
oui, jeudi 8 octobre, il y a un tout autre programme en fait, c'est Mozambique Guinée-Bissau du côté de Rio Maior, du côté du Portugal avec un but de Bura Nogueira à la 63e minute, la Guinée-Bissau s'est imposée 1-0. L'Afrique du Sud, Namibie, eh bien ça s'est soldé par un match nul, c'était du côté de Rosternburg avec un but pour l'Afrique du Sud de Luther Singh à la 19e et Ibondi à la 55e pour la Namibie. Un partout entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Côté Belgique-Côte d'Ivoire, donc un match que vous avez vécu sur Africa Radio.
Et qu'on va décortiquer.
Bien, avec toute l'équipe, bien sûr, de Tout Feu Tout Foot. Et également nos compères qui étaient du côté de la Belgique avec Christian Chango et Salah Eddine Gakou, que l'on salue. Un match qui s'est soldé par un match nul, un partout du côté de Bruxelles, avec un but de Michy Batshuayi à la 53e minute et Franck Kessié à la 86e minute sur penalty.
Alors, alors si vous avez vécu ce match, bien sûr, avec nous sur les antennes d'Africa Radio, Paris 107.5, Abidjan 91.1 et Brazzaville 94.5, et sur, bien sûr, toutes nos radios, oui, je cherche en même temps.
En DAB+, plus, hein.
En DAB+, plus, bien sûr.
Sur Internet.
Bien sûr. N'hésitez pas, venez décortiquer avec nous donc ce match entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Christian Chango, vous avez commenté ce match-là. Comment vous l'avez vécu? Nous, en tout cas, du côté du studio, on l'a vécu d'une manière quand même assez, comment dirais-je, assez sévère, assez
Mais pas sévère.
Non, mais je veux dire que à la limite, on a mis quand même des appréciations qui nous ont semblé très justes par rapport à ce match-là, où on a vu une équipe ivoirienne qu'on a analysée comme une équipe qui n'a pas joué sa chance à fond pour pouvoir l'emporter, alors que c'était possible face à une équipe de Belgique, même si elle a le rang de première équipe mondiale, mais c'était quand même, il faut le reconnaître, une équipe B ou C de l'équipe de Belgique.
Oui, coach, sur ce match, comme vous l'avez dit, qu'on a commenté pour Tout Feu Tout Foot et pour Africa Radio, un but partout. La première impression que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire, c'était d'abord le classement, la formation, avec trois défenseurs centraux, quatre milieux et trois offensifs. On se demandait ce que ça allait donner. Et globalement, quand même, ce qu'on retient, c'est qu'on aura été déçu de, pas de la formation, mais de ce que les joueurs en ont fait, de l'animation et de ce qu'ils nous ont montré dans le jeu. On en a parlé dans le match, on peut en reparler, bien sûr. Il y a eu quand même beaucoup trop d'écart entre les lignes, où les attaquants étaient tout seuls devant avec un pressing décousu, ou alors les défenseurs étaient lâchés. Donc, globalement, le test de cette formation avec les joueurs, ça a été quand même un peu décevant. Après, on rappelle, bien entendu, le contexte. Ça fait quasiment un an que les joueurs n'étaient pas réunis ensemble. C'est le temps de se remettre, de redécouvrir un peu les affinités et les positions des uns et des autres. Mais globalement, quand même, malgré le résultat de un but partout, déçu de l'équipe de Côte d'Ivoire qui avait quand même sur le papier de quoi faire. Mais encore une fois, le papier, ça fait pas tout. Et juste un mot sur la Belgique, c'était une équipe B, mais pour les avoir vus, vraiment ce que dégageait la Belgique, ça aurait pu être une équipe A. Et on l'a vu hier, la Belgique face à l'Angleterre, ils en ont pris trois.
Ben oui, on les a vus le lendemain. Doyen, est-ce que réellement, faut rappeler une chose, c'est que Bobel, qui est l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire, était pour la première fois sur le banc de cette équipe des éléphants. Ouais. D'accord. La dernière fois qu'il a coaché avec son mentor, l'homme à la chemise blanche,
Hervé Renard,
c'était quand ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Ouais. Et à ce moment-là, il jouait en un système qui consistait à jouer avec trois défenseurs centraux, cinq milieux de terrain et trois attaquants. Ouais. Est-ce que le fait de reprendre ce genre de système n'a pas peut-être mis en péril un peu la prestation des éléphants, d'autant plus que quand on sait que Camara, qui a été l'entraîneur qui a été remplacé par Bommel, a joué toute la Coupe d'Afrique des Nations en 4-4-3.
Oui, moi, à part le tactique ou les techniques de jeu ou bien le jeu du coach, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas joué pendant 11 mois et que l'entraîneur vient d'arriver, il a dit d'entrée de jeu que lui, il n'a fait qu'appeler des joueurs qu'il connaissait. Peut-être qu'il ne connaît pas la forme actuelle de tous les joueurs. Donc on a vu les noms, quand j'ai vu les noms, par rapport au jeu, à la copie donnée par ces noms, et j'ai été déçu. C'est pour ça qu'on est déçu par rapport à une équipe que je connaissais déjà, les joueurs qui ont déjà, ils sont champions d'Afrique. Ils n'arrivent même pas à faire trois passes de suite. Donc moi, je mets ça sur le compte du fait qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis très longtemps.
Alors, est-ce que c'est normal, Christian Chango, je veux dire, est-ce que c'est normal, peut-être que c'est normal pour l'entraîneur Bobel, d'avoir appelé, comment il s'appelle,
Sérédier?
Non, l'homme au bandeau. Sérédier, d'abord, parce que Sérédier avait dit qu'il ne jouait plus.
Gervinho.
Gervinho n'est pas rentré. Alors que Gervinho aurait pu, quand même, de par sa vitesse, créer quand même quelques dangers par rapport à ce match-là.
Oui, coach, c'est vrai que quand on regarde quand même le trio d'offensif, Pepe, Gradel, Zaha, il y a de la vitesse, de la technique, de la rapidité. Donc, on s'attendait à mieux. Après, c'est vrai que quand on a vu que Gervinho était de retour dans la liste, c'était déjà une bonne nouvelle. Et il le mérite sur ce qu'il a montré ces deux dernières années, avec Parme en Italie. Maintenant, le coach sur ce match-là a fait le choix de ne pas le faire rentrer. On l'a même pas vu aller s'échauffer, d'ailleurs. Ils étaient plusieurs à être allés s'échauffer par moment, par période décalée. Mais on n'a pas vu Gervinho rentrer sur le terrain. Et même après le match, quand on faisait le petit débrief du match, avec Salah Eddine, on regardait les joueurs qui ne sont pas titulaires et qui n'ont pas joué font un décrassage après les matchs où ils font des petits sprints au milieu du terrain. Gervinho n'a pas participé à l'exercice. Est-ce qu'il y avait une blessure? Est-ce qu'il avait peut-être une douleur? En tout ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai qu'on a été surpris de ne pas le voir rentrer puisqu'il y a eu de nombreux changements, mais Gervinho n'est pas rentré.
Hakim, comment vous avez vécu ce match?
Oui, écoutez, Coach Lamine, moi, c'est tout simplement un match. C'était un match intéressant, c'est-à-dire sur la deuxième période. On a effectivement vu un sursaut d'orgueil des Ivoiriens dans les 30 dernières minutes, notamment quand Patrice Baumel a effectué les changements offensifs. Donc, on a vu qu'il y avait un petit peu plus de percussion, un peu plus d'envie pour ne pas dire effectivement que c'était plutôt calme en première mi-temps. On a senti quand même un sursaut d'orgueil de la part des Ivoiriens. Ils sont bien rentrés, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur entrée en deuxième mi-temps. Et ils ont apporté beaucoup plus de fraîcheur. C'est-à-dire, je m'explique, Coach Lamine, on a senti un petit peu des Ivoiriens en première mi-temps. C'est-à-dire à jouer avec un petit peu avec ce frein à main. Et c'est vrai que le round d'observation dans la première mi-temps, il a duré seulement 10 minutes pendant le début de cette première mi-temps. Alors qu'on l'a bien vu, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, il avait prévenu effectivement son équipe, les joueurs, que ça serait pour eux l'opportunité de jouer face à une bonne nation qui a effectué effectivement de bonnes choses sur les 6-7 dernières années, notamment avec ce titre en Coupe d'Afrique des Nations. Mais on n'a pas senti, c'est-à-dire un groupe travailler ensemble, aller essayer d'aller chercher le pressing un petit peu plus haut. À part quelques fois, Serge Aurier qui a essayé d'apporter un petit peu sur les côtés comme il le fait du côté de l'Angleterre ou d'autres joueurs encore. Après, moi, je suis resté un peu sur ma faim dans cette rencontre, malgré qu'ils aient pu effectivement tirer ce match nul grâce notamment à ce pénalty en deuxième période. Et comme je l'ai dit, Lamine, c'était un match intéressant de préparation, certes, mais un match important au vu des échéances qui vont arriver. Et c'était une bonne opportunité, surtout pour les jeunes, inhabituellement, qui n'ont jamais effectué de grands matchs comme celui qui a été effectué ce jour-ci, pour les Belges, en fait. Parce qu'on le rappelle, les Belges, ce n'était pas l'équipe titulaire, mais bien effectivement des jeunes joueurs que Roberto Martinez voulait essayer face à la Côte d'Ivoire.
Voilà. Alors, donc, prochain match, Christian Chango, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que ça devrait être contre le Japon, il me semble, non ?
Exact, ouais. Le 13 octobre. C'est demain, oui. Demain contre le Japon, du côté de Utrecht, aux Pays-Bas.
Mmh. Mmh. Alors, est-ce que finalement, vous avez pu discuter avec un joueur ou quelque chose comme ça ? Vous avez pu avoir un sentiment par rapport où ça a été complètement difficile à cause du Covid ?
C'est ça, exactement. Malheureusement, autant, par exemple, quand on avait fait Côte d'Ivoire, RD Congo, on avait pu avoir accès aux joueurs. Là, la situation sanitaire n'aidant pas, donc avec le Covid, malheureusement, on n'a pas eu accès aux zones mixtes ou aux confs de presse. C'était vraiment ultra restreint où il y avait juste le diffuseur principal qui pouvait poser des questions au sélectionneur et à Serge Aurier. Mais nous, malheureusement, on n'a pas pu avoir accès aux joueurs. Mais en parlant de body language, d'attitude, après le match, on a vu on en a parlé durant la rencontre, pardon, le fait que les joueurs parlaient beaucoup, communiquaient trop ou pas assez. Et on l'a vu de longues minutes après le coup de sifflet final. On a vu les joueurs discuter en groupe, sûrement reparler du match, des occasions ratées, de ce qui a fonctionné ou pas. On a vu vraiment de longues discussions, notamment menées par le capitaine Serge Aurier et Maxime Gradel et ton ami Seridier. Mais, mais c'est vrai que...
C'était certainement pour pouvoir remettre en place des erreurs ou des placements qui n'ont pas été réellement. Parce que ce qui était important, parce qu'après j'ai dû suivre un peu ce qu'en pensait la presse ivoirienne, ouais. Le souci c'était réellement de trouver à ce que la mayonnaise prenne. Ouais. Parce qu'il a appelé des joueurs, divers joueurs, ouais, d'un côté, même des joueurs qui n'avaient pas retrouvé la sélection depuis presque 5 ans. Ouais. Il les a rappelés et l'essentiel pour lui, c'était que la mayonnaise prenne. Et est-ce que sur ce match-là, la mayonnaise a pris maintenant?
Non, sur le match, non. Mais ce qui est intéressant, dès la fin de la première mi-temps, on a vu les joueurs se concerter. Donc, c'est intéressant de savoir que les joueurs ont compris que ça ne marchait pas.
Ouais.
Donc, on va voir avec le Japon qu'ils vont se remettre en cause.
Mmh. Allez, on revient tout de suite.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Africa Radio, bien sûr, 107.5 avec le doyen Willy Dorkono, avec Christian Chango, avec Hakim Djelouat et mise en onde, bien sûr, de notre ami Valentin Blanc. Messieurs, nous allons continuer à regarder un peu et commenter ces résultats des matchs amicaux qui se sont déroulés ce week-end. Christian Chango, on va continuer maintenant avec le vendredi 9 octobre où il y a eu aussi des matchs.
Oui, exact, coach. Le vendredi 9 octobre, match nul 0-0 entre le Japon et le Cameroun. 2-1, victoire du Kenya face à la Zambie. La Tunisie a battu le Soudan 3-0. Burkina Faso, RD Congo, 3-0 pour le
pardon,
Burkina.
Pardon, j'ai pas entendu.
Et Ghana face au Mali, le même score, 3-0 pour le Mali. Tunisie Soudan 3-0, Burkina Faso Congo, 3-0 pour le Burkina. Ghana Mali, 3-0 pour le Mali. Et pardon, excusez-moi, j'ai oublié la Mauritanie également qui a battu la Sierra Leone, 2-1. Le Maroc qui a battu le Sénégal, 3-1. L'Algérie qui a battu le Nigeria, 1-0. Gambie, Congo-Brazzaville, 1-0 pour la Gambie.
Et nous n'allons pas parler du Sénégal, bien sûr, mais on va parler du RD Congo. Et quand on parle du RD Congo, on a notre correspondant Marco Momo. Bonsoir.
Bonsoir, coach, et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Et pourquoi pas à Christian Chango.
Bonsoir, Marco Momo.
Marco, vous en avez pris 3 au Burkina. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est pratiquement incompréhensible ce qui s'est passé avec les léopards de la République démocratique du Congo. Personne ne pouvait voir, entrevoir un tel score en défaveur de la RDC. 3-0, c'est pratiquement inadmissible pour les léopards. Et la presse a parlé jusqu'à demander même le retour de Jean-Florent Ibengué, puisque c'est tout simplement Christian Sengibembe. Et pire que Jean-Florent Ibengué. C'est la cinquième sortie pour le sélectionneur national depuis qu'il a pris les commandes de cette équipe de la République démocratique du Congo. Et aucune victoire pour Christian Sengibembe. On reste sur trois matchs nuls et deux défaites pour le Lopa de la RDC. C'est pratiquement lamentable. C'est vrai, il y a des excuses. Il y a pas eu de cadres tels que Cédric Bakambu qui est en train de briller de mille feux au niveau de la Chine, avec son Benji Kouane, après avoir atteint la barre de 50 buts. Il n'y a pas eu Chancel Mbemba qui est resté au Portugal. Il y a Massoko qui est rentré en Angleterre dessus d'une blessure. Mais il y a certains cadres qui étaient là. Il y a certains cadres qui étaient là, notamment Tisserand, notamment Luindama, notamment Joey Samanteko qui étaient là qui sont également là pour cette formation de la RDC. Mais malheureusement, défensivement, elle reste perméable. Offensivement, c'est une équipe qui n'a pas d'argument solide. Solide, oui, effectivement, puisqu'il y a Sebano qui est revenu en sélection, mais ce n'est pas ce Sebano que nous avons connu. Ses prestations sont en dessous de la moyenne, à l'image du début de saison de Fulham en première ligue. Donc, le Congolais a pratiquement baissé, et que ce soit en sélection encore avec son équipe en première ligue. Ça représente toute l'image de cette formation, de cette équipe entraînée par Christian Sengibembe. C'est une équipe qui est à court d'arguments, à court d'inspiration.
Eh bien, qu'est-ce qu'on lui reproche en fait, Christian Chango, le nouveau coach, jusqu'à ce qu'on fasse appel maintenant à Ibengué?
Ouais, mais on le compare à Ibengué, mais c'est tout simple.
Donc, après, c'est normal qu'il soit comparé à Ibengué. Ibengué, il est resté longtemps à la tête de la sélection. On l'a vu pendant plusieurs années à la tête des Léopards. Donc, pour le nouveau coach, à lui de se mettre en place. Après, c'est vrai que comme l'a dit Marco Momo, que je salue, comme il l'a précisé, hein, sur les résultats, tous les résultats qu'il a eu à mener, il n'y a eu aucune victoire. Il n'y a pas de fond de jeu qui se dégage. Bon, là, il y a eu la coupure, certes, mais il n'y a rien qui est montré dans le jeu pour la RD Congo. Donc, à quelques semaines des éliminatoires à venir, c'est vrai que ça reste inquiétant. Après, c'est que le premier match depuis longtemps. Les joueurs vont devoir se bouger, montrer le talent qu'ils ont. Et on parle toujours des binationaux, des joueurs locaux. Là, en RDC, il n'y a pas ce souci-là. Les locaux sont très bons, voire certains meilleurs que certains binationaux, je ne dirais pas de nom. Mais il faut que l'équipe se reprenne et surtout que le coach trouve la solution pour concerner ses joueurs. Puisque là, sur ce qu'on a vu, c'est quand même très 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 faible. Et le Burkina Faso, de l'autre côté, par contre, qui a montré de très belles choses.
Ben oui, c'était l'occasion pour Adama de faire le malin aujourd'hui.
Mais c'est pas la première fois aussi. C'est pas la première fois que le Burkina met les bâtons dans la roue de la RDC.
Ah oui.
Donc, à force, c'est pas pour ça que les Congolais vont se sentir un peu lésés et demander à ce qu'on vire l'entraîneur. Ça fait longtemps que le Burkina gêne la RDC.
Justement, Marco, est-ce que là, le coach est vraiment sur les tablettes? Est-ce qu'il il est sur le grill? Il risque de partir si jamais le prochain match, il n'arrive pas à s'en sortir?
Et en tout cas, ce qui est si sûr, il est venu pour 6 mois. Il devait diriger la formation à l'équipe nationale pendant 6 mois et on devait penser à un autre entraîneur, puisqu'il est directeur technique au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Mmh. Alors là, il s'est pérennisé avec la situation due à la pandémie à coronavirus. Il est là, il est en train de diriger cette formation. Et je vous assure, une chose est sûre, en République démocratique du Congo, son avenir va se décider lors de la double confrontation du mois de novembre contre le Palanca Chenegras de l'Angola. Mmh. Puisque ça passe pour le Léopard ou ça casse. Pratiquement, la RDC a 2 points. Après le nul réalisé à Kinshasa devant les Panthers du Gabon, il y a le nul qui a été réalisé en déplacement 2-0 face à la Gambie. Il y a cette double confrontation. On a encore ce souvenir, hein, je vous assure, on a ce souvenir de la Tunisie, ouais. La double confrontation que nous avons perdue et qui nous a coûté cher pour la Coupe du Monde 2018. Et là, il y a cette double confrontation qui pourrait coûter cher à la République démocratique du Congo. Et qui est sûr, le match de demain contre le Maroc va encore nous donner beaucoup plus d'indices sur l'avenir du coach Christian Sengidiembe. C'est vrai, il sera tôt pour la fédération de prendre une décision pour le remplacer, alors qu'on est à moins d'un mois de cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Mais une chose est sûre, après cette double confrontation, on en saura beaucoup plus sur l'avenir de Christian Sengidiembe. Va-t-il rester à la tête de Léopard? Va-t-il continuer? En tout cas, la réponse, on l'aura sans nul doute au mois de novembre.
Est-ce que Ibenge pourrait revenir? Est-ce qu'il y a des chances qu'il puisse revenir?
Il y a des chances, oui, mais je ne crois pas. Ça dépendra en fait de lui. Vous savez que c'est un monsieur de principe. Jean-François Ibenge est un monsieur de principe et je ne vois pas aussitôt revenir à la tête de la sélection nationale. C'est vrai qu'au pays, il y a des entraîneurs qui sont talentueux, qui peuvent diriger cette équipe nationale. Mais vous savez aussi qu'on est en train, il y a toujours cet esprit-là de sortie blanche qui nous hante. On pense que ce sont les sorciers blancs qui sont des magiciens qui vont amener cette sélection un peu loin. Jean-François Ibenge est venu, il a placé la barre à un certain niveau. Alors, tous ceux-là qui devront venir devront atteindre cette barre-là. Mmh. Malheureusement, Christian Sengidiembe est très mal parti. Il nous a fait rêver, hein. Il nous a fait rêver, franchement, avec ses nuls d'un but partout devant les fenêtres d'Algérie. Mais par après, il y a eu cette raclée devant la Côte d'Ivoire 3-2-1 et par la suite.
Marco Momo,
on est en train de nager dans l'incertitude.
Ok, oui.
Ouais, Marco Momo, après la correction infligée au Sénégal, les Marocains vont effectivement avoir donner du fil à retordre au Léopard de la République démocratique du Congo. Quel va être le 11 de départ, ou en tout cas quels seront les joueurs présents et qui étaient absents lors de la confrontation face au Burkina Faso?
Bon, je crois que l'entraîneur est pratiquement en cours de solution puisqu'il n'a pas un banc de touches assez garni. Puisque quand vous regardez les joueurs qui ont commencé les matchs contre le Burkina Faso, ce sont en fait les meilleurs qu'il avait à sa possession. Donc, il n'a pas assez de choix. Il peut apporter quelques changements. C'est peut-être en attaque. Jouer peut-être avec Francis Kazadi-Kassengou qui a fait une très belle saison avec le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc. Ou encore essayer de voir avec les internationaux, mais il n'a pas une grande marge de manœuvre. Ouais. Il n'a pas une grande marge de manœuvre, que ce soit au milieu des terrains. Il a fait, au fait, avec des joueurs de second choix. De second choix, que ce soit même au niveau de leur club respectif, puisque ce sont des joueurs qui n'ont pas, qui sont en manque de temps de jeu. Mmh. Il fallait peut-être songer, s'il avait des garçons tels que Jackson Muleka, on pouvait peut-être croire qu'il pouvait jouer, mais malheureusement, c'est un entraîneur qui n'a pas assez de choix, qui n'a pas assez de pièces de réchange. Je vois effectivement Luindama et Tiferan. Je vois également un certain Joey Samateko, Fabrice Sakala. Je vois Moutoussami.
Marcel Tisserand, il sera présent.
Peut-être Kaloulou qui pourrait remplacer. Vous dites
Marcel Tisserand.
Oui, Maxel Tisserand et Louis Ndama au niveau de la charnière centrale. Mmh. Au milieu de terrain, je vois un certain Kebano qui pourrait être là. Fabrice Mboma qui a également fait une très belle saison, qui est d'ailleurs champion en titre, qui vient de remporter avec le Raja la Botola Pro A. Je vois peut-être, de part et d'autre, je vois aussi Kebano, puisque l'entraîneur n'a pas assez de choix. Je vois Kebano, je vois Nils Depaul. Je vois également un certain, peut-être Francis Kazadi, commencer ce match contre le Maroc. Et je suis sûr que ça ne sera pas vraiment aisé pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Le Maroc est en pleine confiance. 3-1 devant le Sénégal, c'est pas quand même n'importe quel score. On sent que c'est une équipe qui est en pleine confiance, même s'il y a l'un des cadres de cette formation des Lions de l'Atlas qui a regagné l'Angleterre à Kingsley, qui ne va pas participer à cette rencontre de demain. Mais on sent que du côté du Maroc, il y a des joueurs qui sont en forme. Il y a des Hakimi qui sont là. Et c'est une formation qui a des talents, qui a des joueurs qui évoluent au plus haut niveau, contrairement à la République démocratique du Congo, où certains cadres à peine deviennent titulaires dans leur club respectif.
Ok, merci en tout cas Marco Momo. En tout cas, ce qu'on peut retenir, Doyen Willy, c'est que le match de mardi face au Maroc, entre la République démocratique du Congo et le Maroc, est un grand rendez-vous qui pourrait peut-être sonner le glas pour l'entraîneur Christian à la tête de l'équipe des Léopards.
Oui, mais on ne va pas tout mettre sur l'entraîneur parce que c'est au jour aussi.
Trois défaites ou trois nuls et deux défaites,
okay, mais
ça fait beaucoup pour une équipe des Léopards.
Pour un grand pays de football comme la RDC. Mais le problème qui va se poser, c'est qu'on peut essayer d'enlever l'entraîneur, mais je pense que M. Ibengue n'est pas le genre à être bousculé dans tous les sens, il ne viendra pas.
Ouais, comme l'a dit Marco Momo, il a certains principes et c'est vrai que laissons travailler comme disait Marco Momo, Christian Nsengui. Donc il va effectuer son sixième match. Là, il n'a pas effectivement encore de victoire. Il en est à trois nuls, deux défaites. Donc c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est en travaillant qu'on peut essayer effectivement de battre le fer. Maintenant, laissons voir effectivement cette rencontre face au Lion de l'Atlas. Ça va être une rencontre intéressante en tout cas.
Merci Marco Momo, merci d'être venu sur la radio africaine.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, Marco, on se reprend dès lundi prochain pour analyser encore ce match entre la RDC et le Maroc. Mais si on revient au résultat entre la Tunisie et le Soudan, 3-0 à Rades, but de Salif Edine Kawi à la 17e, Ali Maloul à la 25e et Anis Ben Slimane à la 35e. Le Burkina Faso, on en a parlé, Bertrand Traoré, 14e minute, Brian Dabo, 61e minute sur penalty et Issoufou Dayo, 86e minute. Ghana-Mali, messieurs, Ghana-Mali à Antalya en Turquie, but Amari Traoré, 3e minute, El Bilal Touré, 49e et Amadou Aïdara, 75e minute. Messieurs, on attendait Doucouré, il n'y est pas allé. On attendait Traoré, Adama, il n'y est pas allé. Mais est-ce que Doyen, le Mali a besoin de tous ces joueurs-là pour pouvoir faire comment ils ont explosé, pour pouvoir démontrer comment ils ont explosé déjà les Black Stars du Ghana?
Oui, je vais me répéter encore. Le Mali a des joueurs à revendre. Je connais ce pays, c'est un grand pays de football. Donc, le Mali n'a pas besoin de prendre ses valises et aller chercher des binationaux quelque part, non. J'avais vu un match du Mali contre le Ghana en 2013. Le meilleur joueur du Mali, c'était Bissouma, qui était du côté du Mali. Ce n'était pas un binational. Donc, arrêtons avec ce genre de choses. Donc, le Ghana, par contre, est un pays qui m'inquiète depuis longtemps. Sur le plan continental, on ne voit pas les équipes comme Asante Kotoko, Hassa Fok Dakra et compagnie. Donc le Ghana suit son cours. Donc son football est en train de mourir tranquillement. Donc c'est ce que moi j'ai vu dans ce match.
Coach, justement sur cette rencontre, avant de parler du Mali qui a battu largement le Ghana, justement c'était ça sur le Ghana et Ouida a raison. Et on constate au niveau du Ghana, au niveau du renouvellement de la génération, où les joueurs ont du mal à revenir. Je ne veux pas parler des problèmes de la fédération et tout ça, c'est un autre débat. Mais on a vu pendant des années, notamment au football des jeunes, le Ghana sortir des joueurs, que ce soit pour les CAN ou les Coupes du Monde, briller. Et ces joueurs-là, pour les meilleurs d'entre eux, atteignaient l'équipe première. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, sans même parler des clubs, la Santé Kotoko et tout, notamment pour les cités, au niveau de la sélection, on a du mal à voir un renouvellement. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Pourtant, le Ghana nous a fourni et a l'habitude de fournir des joueurs à l'appel. Donc c'est attention quand même pour le Ghana. Et pour le Mali, sur cette rencontre, il faut rappeler que tous les joueurs qui avaient été convoqués sur la liste initiale. Il y en a au moins une dizaine qui ne sont pas venus à cause de Covid ou autres soucis. Et le Mali a quand même réussi à aligner une équipe de qualité et à faire un match
de qualité. Ils ont marqué de Boubi.
Et le Mali, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis la dernière CAN, où ils ont renouvelé un peu la sélection avec beaucoup de jeunes joueurs. Mais eux, ils sont vraiment dans cet objectif de marquer le plus de buts possible. Après, bon, ça peut déplaire puisqu'on prend des buts. Là, ils n'en ont pas pris. Mais le Mali, c'est toujours un but de plus. Et depuis 2 ans, le Mali est dans cette continuité. Donc, à suivre avec attention.
Très bien. Autre match, Mauritanie-Sierra Leone, 2-1 à Nouakchott. Alors, avec les joueurs de quarantaine, Martins but Amadou Nias à la 20e minute. Et Emeye Tani, 78e minute. Et Hassan Kamara, 31e minute. Je rappelle que la Mauritanie rencontre demain donc le Sénégal du côté de Thiès. Maroc-Sénégal, messieurs, à Rabat, but Selim Amala à 10e minute. Youssef El Nesri, 71e, et Youssef El Arabi à la 86e minute, alors que Ismaël Sarr a marqué un pénalty à la 89e minute sur pénalty. Messieurs, je vous écoute.
Quel match ? Quel match ? Le Sénégal est passé à côté sur cette rencontre. C'est surtout, plutôt, on va dire, c'est le Maroc qui a fait un match où les joueurs étaient quand même plus compétitifs, on va dire, dans l'état de forme que les joueurs sénégalais. On a vu, hein, il manquait beaucoup de cadres aussi du côté du Sénégal. Mais le Maroc a vraiment fait une prestation de qualité, de bout en bout. Moi, c'est Hakimi, hein, sur cette rencontre, le défenseur de l'Inter Milan. On l'a vu dans son couloir, il a fait la musique pendant toute la rencontre. Donc il y avait beaucoup d'espace côté sénégalais, alors qu'il nous avait habitués à quand même à être un vrai bloc équipe, à bien défendre, à combler les brèches. Là, j'ai trouvé le Sénégal qui est passé à travers, et surtout le Maroc était vraiment un ton au-dessus, donc il n'y a pas photo. Et le sélectionneur Cissé l'a bien dit d'ailleurs en conférence de presse après la rencontre, hein, que il n'y a pas mort d'âme, c'est un match amical, on a perdu, l'adversaire a été meilleur et il va falloir travailler pour corriger ce qui n'a pas été, mais le Maroc a été au-dessus du Sénégal, il n'y a pas de honte à le dire.
Ouais, ça c'est clair. Hakim ?
Les hommes de Vahid Ali Lodzic, eh bien, on va dire, ont plutôt bien géré leur rencontre. Coach Lamine, du côté du complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat, c'est un match effectivement qu'ils ont pris au sérieux dès le départ. Ils savent qu'ils jouaient contre l'équipe finaliste qui a été battue par l'Algérie. Donc le Sénégal, c'est pas une petite nation, bien au contraire. Maintenant, je pense que les Marocains, Coach Lamine, ont maîtrisé leur match de la première minute jusqu'à la fin. Cette victoire, elle ne vient pas effectivement au hasard. Il y a un gros travail qui est effectué du côté de la Botola. On a vu là le Raja remporter leur match. C'est pas pour rien, effectivement, si on voit quelques joueurs qui évoluent en équipe nationale dans plusieurs pays, que ce soit du côté de la RDC, que ce soit du côté du Burkina ou dans d'autres pays également. Les joueurs marocains, les Lions de l'Atlas, ont été beaucoup plus, c'est-à-dire en regardant le résumé, ils ont été beaucoup plus tranchants, ils ont été beaucoup plus vifs. Ils ont souhaité aller chercher effectivement les buts dès le départ, Coach Lamine. Et c'est en ça effectivement où les Marocains ont été, ils avaient faim, ils avaient envie de rejouer, ils avaient effectivement après cette longue trêve suite à cette crise sanitaire, ils avaient envie de buts, de matchs, de victoires, et surtout en jouant à domicile. Donc ça leur a permis effectivement de bien maîtriser les débats. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Et puis la mayonnaise, elle a pris aussi, il faut le dire, Lamine, avec une équipe aussi bien sûr rajeunie, mais aussi avec un petit peu plus d'expérience, comme El Arabi ou d'autres joueurs aussi qui évoluent avec cette sélection des Lions de l'Atlas. C'est un mélange d'anciens, de jeunes qui ont parfaitement en fait fait tremper la mayonnaise face à cette équipe sénégalaise qui a eu beaucoup de difficultés et qui, même si elle a effectivement été mettre un but dans cette rencontre au finish, eh ben ils ont eu du mal.
Okay.
Oui, belle Hakim, victoire pour le Maroc.
Okay. Hakim, le Sénégal n'a pas à rougir, parce que quand on voit le Maroc, c'est l'équipe en forme au-dessus du continent actuellement, malgré leur parcours en demi-teinte au niveau de la CAN. Donc il ne faut pas se rougir, parce que le Maroc a retrouvé sa belle forme, sa forme d'antan. Donc ça, il faut le noter aussi.
Ouais.
Oui, mais moi je serais un peu plus vache avec l'équipe du Sénégal pour une raison très simple, c'est que quelquefois, j'ai l'impression que le Sénégal a du mal à jouer contre les équipes top number one. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et quand on voit ce match face au Maroc, regardez, quand on joue, quand le Sénégal joue contre l'Algérie, c'est difficile, contre le Maroc, c'est difficile, quand il joue contre les équipes qui sont classées vraiment dans les grandes équipes. Oui. Et aujourd'hui, on a vu que par rapport à ce match-là, d'ailleurs, on a échappé à une... ce qu'on pourrait appeler à une bagarre, entre guillemets, sur ce match-là, parce qu'il y a eu même un carton jaune qui a été donné à l'entraîneur Cissé, parce que tout simplement, il s'énervait par rapport au jeu, au jeu des Marocains. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, il ne faut pas qu'il se regarde jouer. On a l'impression qu'il se regarde jouer. Mmh. Ils pensent qu'ils sont premiers au niveau du classement africain, et donc ils sont intouchables. Et quand vous rencontrez une équipe marocaine qui met de l'intensité dans le jeu, qui te donne des tacles à la gorge, qui te font mal au niveau du jeu, vous devez répondre. Aujourd'hui, ils n'ont pas répondu. Ils ont été dominés physiquement.
Oui.
Parce que tout simplement, une équipe marocaine ou certains de ses joueurs jouent maintenant à l'étranger. Avant, on pouvait dire oui, le Maroc. Mais aujourd'hui, presque tous les joueurs marocains jouent à l'étranger et ils ont compris que pour gagner un match, il faut de l'impact physique.
Et c'est même pas cela.
Et là, on se rend compte que des gars qui, certes, le Sénégal est venu avec des joueurs qui, pour la première fois, glaner leur maillot pour la première fois, le maillot national, mais ce n'est pas une raison, comme on dit, c'est une équipe nationale du Sénégal qu'on a vue, qui a été mangée sur tous les plans, physiquement, etc.
Ils sont en face du Maroc, parce que le Maroc...
Mais le Maroc n'est pas battable, pas imbattable.
Le Maroc est l'une des rares équipes sur le continent à aller pouvoir battre la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire.
Même si le Sénégal a été privé, et ça vous avez raison de le dire, même si le Sénégal a été privé de Sadio Mané ou d'autres joueurs également
qui n'étaient pas
présents. Vous avez raison. Il ne faut pas enlever effectivement cette victoire pour les Marocains face au Sénégal. Maintenant, ils ont fait face à une meilleure équipe qui avait un petit peu plus d'envie face effectivement au lion de la Teranga. Et il faut quand même le souligner, coach Lamine, le facteur effectivement de jouer à domicile est aussi beaucoup plus favorable pour...
Non, il n'y a pas de public, donc ça ne veut rien dire.
Ça reste quand même beaucoup plus favorable pour une équipe qui joue à domicile que quand elle part à l'extérieur. Mais
domicile, c'est quand il y a du public, à la limite, on peut parler. Mais là, actuellement, je veux dire, il n'y a pas de public. Si les Lions du Sénégal se sont fait manger par les Lions de l'Atlas, ça, c'est tout autre chose. Et comme je le dis et je le répète, on a vu un match où les Marocains ont marché sur les Lions du Sénégal. Un milieu de terrain où ils ont passé leur temps à reculer. Mmh. Il n'y a pas eu de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il y a eu toujours une difficulté à résoudre les problèmes par rapport à l'équation de cette équipe marocaine. Une défense qui est spectatrice. Parce que sur le deuxième but, on a vu que sur un 1-2, on a réussi à prendre en défaut l'axe central de l'équipe. Mais je veux dire que bon, tout ça emmagasiné, même si le coach que j'aime bien dit que il n'y a pas péril en la demeure, mais quand même, il faut marquer son territoire quand on joue et quand on est première sur une liste d'équipes au niveau classement africain.
La prochaine rencontre pour le Sénégal, ça sera la Mauritanie.
Ça va être aussi chaud.
Du côté de Thiès, ça va pas être facile.
Ça va être aussi chaud.
Les Mauritaniens ont battu la Sierra Leone.
Parce que quand vous voyez Mauritanie contre la Sierra Leone, Amadou Niass, c'est du Sénégal. Je vous dis, je suis désolé. voilà. Hassan Kamara.
Parce que les
Mauritaniens, d'habitude, c'est Ould Mohamed. voilà, c'est tout.
Coach Lamine, mon confrère et ami et cher ami directeur de la communication de la Mauritanie, ne sera pas d'accord avec vous.
En tout cas,
moi non plus.
Moi non plus.
Messieurs, on revient tout de suite et après on pourra parler un peu des autres résultats, comme par exemple l'Algérie face au Nigeria, la Gambie qui a battu le Congo-Brazzaville et surtout Madagascar qui n'a pas fait de détails face à une équipe du Luxembourg, 4-1. Messieurs, on revient tout de suite.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur la radio africaine avec Doyen Willy Dorkono, avec Christian Chango, avec Hakim Djellouat, bien sûr. Messieurs, nous allons continuer à décortiquer un peu les résultats de ces matchs amicaux. Sur le continent, on a eu un match entre la Gambie et le Congo-Brazzaville à Faro, au Portugal. 1-0 pour la Gambie. Un but d'Hassan Cissé à la 56e minute. Mais un match qui a été un match doyen important sur la suprématie, pour la suprématie de ce football continental. Il s'agit de l'Algérie face au Nigeria. Ça se jouait à San Van Angerklan. En Autriche. En Autriche. Allez, hop.
Ça se jouait tranquillement.
Avec un but de Ben Sebaini à la 6e minute.
Ouais. Oui, l'Algérie est dans la continuation. Ils ont un coach qui est très ambitieux. Un coach très impliqué. Donc l'Algérie, moi j'ai confiance dans ce pays. En dehors même de l'Afrique, ils peuvent faire grand chose parce que par rapport à l'ambition de leur coach. Donc et battre le Nigeria en ce moment par rapport à leur forme actuelle, et ça me surprend pas du tout quand je vois l'implication de leur coach dans ce qu'il fait partout dans sa déclaration. Je sais qu'ils vont aller très loin.
Hakim.
Coach Lamine, l'Algérie qui pour le moment, bien sûr, elle essaye de montrer qu'elle est l'équipe numéro une du côté du continent africain. Elle montre qu'elle est bel et bien présente effectivement au sommet du continent africain. Elle a réussi à battre le Nigeria 1-0. Elle montre qu'elle arrive à tenir son rang, Coach Lamine. Elle prend effectivement une bonne équipe du Nigeria emmenée par Garnet Rohr. C'était un bon match amical. On l'a observé du côté de Paris avec toute la famille, avec ce but qui est arrivé en tout début de rencontre par l'ancien défenseur de Rennes, Rami Ben Sebaini, dans les 15 premières minutes. Sixième minute. Non, l'Algérie qui était dans son match, il y a eu un petit turnover de la part de Djamel Belmadi pour tester quelques joueurs, Coach Lamine. On a vu aussi des anciens revenir, comme l'ancien joueur de Rennes également, qui évolue du côté du Portugal, oui. Brahimi, qui a fait son entrée en toute fin de rencontre, qui a porté le brassard à la sortie du premier capitaine. Et c'était une bonne chose de revoir les Algériens, Coach Lamine. On le rappelle, ils sont champions d'Afrique. Ils étaient surtout, Coach Lamine, dans ce match, très disciplinés. On les a sentis, comme l'a dit Willy, bien organisés. Ils ont bien maîtrisé leur match, de bout en bout, défensivement. Il y a eu quelques fois des petites bourdes, mais rien de méchant. Ils ont réussi à... Je pense qu'ils auraient pu mettre un deuxième but face au Nigeria. Le Nigeria qui a eu énormément d'occasions et qui ont très très bien joué le jeu face à cette équipe algérienne. Il y a eu aussi beaucoup d'essais pour Garnet Rohr du côté du Nigeria. Coach Lamine, on a vu des nouveaux visages côté nigérian. Mais les Super Eagles, voilà, ont montré un petit peu de la fébrilité face à cette équipe algérienne expérimentée. Il y avait également... Riyad Mahrez qui était présent, d'autres joueurs aussi pour ne pas les citer, Coach Lamine avec le nouveau gardien algérien, mais je pense que c'est une bonne rencontre pour les Algériens et une bonne préparation pour les échéances qui vont venir, Coach Lamine, notamment si je ne me trompe pas, c'est la prochaine rencontre, ça sera face au Mexique après avoir remporté leur match face à la Colombie l'année dernière. Là, ils vont jouer une autre équipe d'Amérique centrale cette fois-ci. Ça sera le Mexique et ça sera un adversaire où il faudra faire attention et un adversaire intéressant pour justement se mesurer et voir un petit peu où est-ce qu'on en est.
En tout cas, il est inarrêtable quand il s'agit de parler de l'Algérie. Hakim, Christian Chango, on va compléter pour les autres résultats rapidement. On a donc Gambie, on en a parlé. Madagascar contre une équipe du Luxembourg. Guinée-Cap-Vert, Niger contre le Tchad. Libye-Comores. Et on va s'attarder un peu sur Libye-Comores parce qu'on aura
belle performance des Comoriens.
Alors, allons-y, Gabon-Bénin, et voilà, Malawi-Zimbabwe, etc. etc. Allons-y.
Exact, on va donner donc les scores. Hein. Guinée-Cap-Vert, ça c'était samedi. 2-1 pour la Guinée, Niger face au Tchad, 2-0 pour le Niger, Libye-Comores, ça jouait du côté de la Tunisie et les Comores, donc ont battu 2-1 à la Libye, on va en parler dans quelques instants, et Gabon face au Bénin, 2-0 pour le Bénin, devait y avoir Guinée-Bissau face à l'Angola, ça devait jouer du côté du Portugal, mais la fédération angolaise donc, a indiqué que les tests de dépistage n'avaient pas été faits à temps, donc on a préféré annuler cette rencontre suite au risque potentiel de Covid-19.
Bien sûr, on a parlé de Gabon-Bénin, 2-0.
Il faut noter aussi que...
Superbe performance du Bénin, ouais, la ville, du côté de Lisbonne.
Ouais, les fausses surprises là, dont on parlait lors de la CAN n'étaient pas du tout des surprises. On a vu Madagascar, le Bénin, la Guinée-Bissau et compagnie, même la Mauritanie. Donc, ce n'est pas des surprises. Comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, que dans tous les 54 pays d'Afrique, il y a du football. Il suffit d'un peu de travail.
Coach Lamine, ce qui est intéressant sur ce que dit Willy Dorkenau et sur ce qu'il apporte en analyse, c'est vrai que la tendance qu'on a eue en fait, lors de la dernière CAN, même si ça remonte effectivement à un peu plus d'un an, elle se retrouve encore sur ces matchs amicaux, sur la trentaine des matchs amicaux qui vont avoir lieu jusqu'à la semaine qui suit. Le Bénin a battu le Gabon et ce, coach Lamine, avec un bon score, sans effectivement tergiverser. Donc ils ont remporté leur match 2-0. Ça montre effectivement le bon travail qui est effectué du côté du Bénin. On n'a pas effectivement Jocelyne Senahoun ce soir pour nous confirmer ça, mais je pense qu'il y a effectivement une bonne dynamique de la part de ces pays, comme Madagascar également, qui a battu cette équipe du Luxembourg. Alors, ça reste effectivement un club, mais un club qui a déjà participé, coach Lamine, au barrage de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa.
Ok, alors nous allons peut-être parler rapidement aussi des Comores qui ont battu la Libye à Tunis 2-1. Et nous avons M. Bouina, qui est avec nous, journaliste donc du côté du Comore, et qui va nous parler un peu de ce match-là. Bonsoir, Monsieur Bonin.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Boina.
Dites-moi, bonsoir. C'est un bon résultat. On était inquiet la semaine dernière quand on parlait un peu de cette sélection des Comores, mais finalement, on se rend compte que Ibrahim Youssef, Youssouf Manchangama et Ahmed Sohili contre son camp, bien sûr, ça c'est pour l'équipe de Libye. L'équipe de Comores, puisque la Libye a été la première équipe à ouvrir le score, il me semble, et que réellement vous avez eu un mental exceptionnel pour pouvoir revenir sur les cavaliers de la Libye et les battre.
On a peut-être le sélectionneur, je crois, Lamine, avec
aussi,
nous.
Oui, ouais, on les a tous les deux.
Oui, Amir Abdou.
Alors, comment vous avez vécu ce match, Monsieur Bouina?
C'était déjà agréable de les voir après une longue période d'absence. C'était important ce stage de Tunis là. Mm-hmm. Et en plus que le match n'était pas aussi sûr d'avoir lieu avec les problèmes de Covid à Tunis. Il y avait eu le premier match d'entraînement qui était annulé. Il y avait encore une menace sur le deuxième match. Et heureusement, le match a eu lieu et c'était vraiment agréable pour nous déjà en tant que pas au-delà d'hommes de médias, mais en tant que supporter déjà de cette équipe, c'est de les voir rejouer encore une nouvelle fois. Et le résultat nous a encore rassurés que même après tout ce qui s'est passé, cette longue période, l'équipe est encore à garder les mêmes principes et le même dynamisme qu'avant la Covid.
Amir Abdou,
oui.
Amir Abdou, j'avais une question par rapport à cette rencontre. Face aux chevaliers de la Méditerranée, la Libye, quelle a été votre stratégie en tant que sélectionneur des Comores?
Déjà, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comme ça, je vais pas dire une stratégie, parce que l'objectif c'était de se retrouver. Ça faisait quasiment un an qu'on ne s'était pas retrouvé. C'est de faire une préparation avant les doubles confrontations qu'on aura contre le Kenya au mois de novembre. Donc il y a eu un travail à faire sur cette période-là. Après, bon, on connaît les problématiques qu'il y a eu par rapport à cette période de Covid. Donc, ça n'a pas été évident pour nous. Il fallait tout gérer derrière. On était dans une situation où on ne savait pas trop si on allait faire les deux rencontres, la rencontre, pardon. Et c'est avéré que ça s'est finalisé 24 heures avant pour avoir la confirmation de jouer ces matchs-là. Après, bon, nous, on a préparé notre stage avec les joueurs qu'on a pu avoir. Il y a eu des blessés, des joueurs qui n'ont pas pu se déplacer. Mais bon, ça s'est passé à peu près dans les meilleures conditions. Ils étaient dans les meilleures conditions, nos joueurs. Donc, on a préparé ce stage avec beaucoup d'envie, d'entrain et de détermination. Voilà, donc on sait qu'on est un groupe déterminé. On n'a pas froid aux yeux,
par rapport à tout ce qu'on est en train de réaliser. Donc, on a fait un bon match hier, une bonne prestation, avec de la détermination et aussi de l'abnégation qu'on a pu mettre sur le terrain hier après-midi au stade El Menza.
Est-ce que ça n'a pas été difficile quand à la limite vous voyez que votre défenseur central marque contre son camp juste avant la mi-temps? Qu'est-ce que vous avez pu dire justement aux joueurs au niveau du vestiaire pour pouvoir revenir dans le match et marquer à la 70e et 90e?
Après, ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est notre péché mignon, on est une équipe qui est joueuse, voilà, on prend des risques notamment dans la conservation. On était quand même dans le money time. C'était quand même 2 ou 3 minutes à revenir au niveau des vestiaires. Ben ça nous servira de leçon. Après bon, le joueur non, on l'a pas incriminé. Il sait qu'il a été, qu'il a fait une erreur monumentale. On s'est tous remobilisés pour revenir au score. Après bon. Ça n'a pas été dégueulasse dans ce qu'on a fait. Hein. On a eu quand même quasiment la possession de balles. Les Libyens ont beaucoup souffert. Même malgré nous ont mis de l'impact physique. Mais on a bien fini le match. On a été solidaires. Et ça montre aussi que le football comorien est en train de progresser.
Ouais. Amir Abdou, une question par rapport justement à la sélection. Vous avez repris les rênes de la sélection en janvier 2014, si je ne me trompe pas. Quels sont les défis pour vous et justement, quels sont vos objectifs pour la suite de la compétition, en tous les cas pour les échéances à venir?
Je pense que vous savez très bien, au niveau des classements, qui est au niveau de ces poules, pour la qualification de la CAN 2022 au Cameroun. Voilà, on est dans une position de leader. Nous, on a envie de rester en haut du classement. Malgré ça, on sait que ça va être difficile. Et voilà, après, bon, on va jouer avec le calendrier et nos objectifs, c'est de finir dans les deux premiers.
Alors justement, en parlant de football, je ne sais pas si M. Boana a des questions à vous poser, mais moi, j'en ai une. C'est concernant un peu les difficultés financières qui se posent au niveau de la fédération. Est-ce que ce sont des problèmes qui ont été réglés et que la sélection peut voyager? Les Colantas, comment vous les appelez? Les Colantas?
Les
comment?
Les Célacantes.
Exactement. Est-ce que ça, c'est un problème réglé? Parce qu'on sait que quand même, à un moment donné, il s'est agi d'éventuels forfaits parce qu'il y avait des problèmes financiers qui se posaient au sein de la fédération. Qu'en est-il au juste?
Après, bon, le football africain est dans la globalité, a toujours eu des problèmes financiers, que ce soit dans toutes les sélections, que ce soit des grandes ou des petites sélections. Voilà, après, nous, on est dans une situation, on a un comité de normalisation où c'est très, très compliqué à eux de pouvoir prendre des décisions sans justifier et sans consulter la FIFA. Voilà, après on a quand même un état qui est très présent, un président qui adore le football, un président qui ferait tout pour que sa sélection et sa fédération puissent gravir d'échelon. Et puis moi je remercie l'État puisque l'État est bien présent pour nous accompagner et je pense que comme on dit, hein, les résultats parlent en soi et je pense que le président lui a rendu la monnaie, comme je lui avais dit personnellement, et je pense qu'il va pouvoir nous accompagner dans les prochaines des échéances.
Ouais.
Christian Chango, Bouyana, des questions?
Moi, je voulais intervenir sur cet aspect financier, même si j'avais pas bien écouté le coach parce que le son il est plus bas pour moi. En fait, ce que j'aimerais peut-être lui poser au-delà de cet aspect financier, c'est juste dans le jeu, parce que certes, ça fait beaucoup plus de temps qu'on n'avait pas joué, mais niveau défensif, on était un peu, on va dire, on était bien lotis niveau défense, bien avant cette année, par exemple. Et ces derniers, depuis l'année dernière, je pense, depuis le match contre la Côte d'Ivoire, le match amical contre la Côte d'Ivoire, jusqu'à hier, on a enregistré déjà trois buts contre notre camp. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses encore à améliorer en défense pour que, par exemple, les défenseurs aient plus de confiance en eux, parce que ça fait déjà trois buts contre notre camp, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu alarmant avant d'affronter le Kenya. Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à améliorer en défense ou des joueurs à placer définitivement et à assurer la défense de Silakan?
Déjà, je pense que tu es mal renseigné. Les trois derniers matchs qu'on a joués, la Guinée à Paris et plus double confrontation contre l'Égypte, et le Togo, on a pris 0 but. Le match de la Côte d'Ivoire, c'était un match de fin de saison, un match amical où il y a quasiment pas d'enjeu et le contexte. On était dans une période compliquée avec cette histoire du TAS, des joueurs qui étaient absents. On a joué quand même contre la Côte d'Ivoire,
ouais.
Quand même qui est 30e mondial, ou 35e, je sais plus exactement. Il faut savoir aussi prendre le contexte actuel. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas une grande nation. On a des joueurs de niveau national ou de national 2. On essaye d'être cohérent dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de réaliser. Je pense que la sélection, depuis que j'ai pris cette sélection-là, on n'a jamais été dépassé de plus de 2 buts. Et je pense que même si on a pris un but hier sur une erreur défensive d'un défenseur qui a fait une erreur, où ça peut arriver dans
ça
un
peut match, arriver, ouais.
Ça peut arriver dans un match. Faut arrêter de penser des choses négatives par rapport à la suite de notre compétition. Et puis, comme je vous l'ai dit, si je gagne 2-1 contre le Kenya, ben je serai très content aussi. Si je gagne 3-2 contre le Kenya, ben je serai très content aussi. Voilà. Donc, il faut rester positif dans ce que la sélection est en train de faire et ne pas chercher des petits détails qui ne correspondent pas à la réalité, quoi.
Ouais, ce qui est important pour vous, c'est la victoire.
Bien sûr, pour arrêter de dire qu'on prend un but, qu'on prend ceci.
J'ai encore une autre question. Si...
Oui, allez-y, Bruno.
En fait, c'est par rapport à la prestation d'Ibrahim Youssouf hier. On l'a vu, il est entré en jeu et il a su ramener cette égalisation. Et depuis 2019, il est régulièrement appelé. Est-ce que coach Amir, vous n'avez pas, par exemple, l'idée encore d'intégrer un nouveau joueur du championnat local, parce que vous avez déjà essayé avec Faouz Faïdine et Ibrahim Youssouf, c'était une réussite. Et est-ce qu'il n'y a pas encore un moyen de faire intégrer encore plus et peut-être un nouveau joueur local dans ton effectif?
Alors là, on n'est pas au période des essais. On est plutôt dans une période de chercher une qualification. Et si on récupère des joueurs, c'est pour apporter un plus au niveau de cette équipe, apporter une plus-value. La plus-value, bien entendu, elle doit être, bien entendu, je n'incrimine pas le championnat comme rien. Après, la prestation, je reviens par rapport à les stations d'Ibrahim Youssouf, d'Idjouja, que je fais confiance à ce joueur-là. Ses stats parlent en lui, puisqu'il a quand même sur 3 buts, il marque 2 buts.
Et un beau but en plus.
Sur 3 matchs, il marque 2 buts. Après, bon, il sait qu'il n'a pas eu une bonne prestation hier. Il a eu la réussite, mais ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts. Donc moi, je suis très satisfait. Par contre, au niveau du prochain rassemblement, on fera des réajustements, peut-être, puisqu'il y aura des. En espérant récupérer les blessés. Et je ne serai pas dans une période d'essai. Je serai dans une période où je ferai confiance à mes joueurs. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, l'objectif, c'est pas d'avoir tout le temps des nouvelles têtes. C'est d'arriver avec un groupe, avec une ossature. On a quand même fait rentrer le petit Bourane, Yacine Bourane, qui joue à Niort, de Ligue 2. Donc, qui a apporté une plus-value. Voilà. C'est ce qu'on demande. Mais,
je peux pas me permettre d'aller chercher des joueurs à cette période-là.
D'accord, on l'aura bien compris. Merci Christian beaucoup. Chango, vous avez une question à poser justement ?
Non, tout a été dit, tout a été complet, donc pas de questions à
coach, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu sur la radio coach africaine. Amir, et surtout, ce qu'on vous souhaite, c'est bien sûr de vous qualifier. Hein, pour qu'on puisse vraiment faire la fête du côté des Comores. Parce qu'on a un de nos amis journalistes qui s'appelle Nasreddine, qui est très inquiet parce que chaque fois...
Non, il est confiant.
Chaque fois comme moi, je suis d'origine du Sénégal, il espère un jour battre le Sénégal. Je dis toujours, peut-être sur PlayStation. Est-ce que vous êtes d'accord?
Sûrement,
c'est bon. Le football,
c'est un match, ça se joue sur un match, et puis il n'y a que là où on voit des surprises dans le football.
Exactement. Non, mais ce n'est pas une surprise de voir les performances du Comore face au Togo, face au Ghana, face au Cameroun. Moi, je sais que c'est faisable.
Parce que toi, tu es togolais, donc...
Merci beaucoup, Amir Abdou, d'avoir été avec nous.
En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et puis, je vais tout faire pour programmer ce match face au Sénégal. Et puis ensuite, après, on se mangera bien en Paris de Tchibouyenne, d'accord?
Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Voilà, merci aussi d'être venu sur la radio africaine. Je ne sais pas si vous avez un autre quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Ça va, c'est bon. Vous êtes content par rapport à ce match-là?
Ouais, c'était bon.
Merci beaucoup, Boyna.
Merci beaucoup, Boyna. Merci beaucoup d'être venu sur la radio africaine.
C'est avec plaisir.
Ok, Christian Chango. Messieurs, on continue donc par rapport à cette émission. Rapidement, pour finir, est-ce qu'on peut avoir les programmes pour la prochaine journée? Quand je dis prochaine journée...
La journée de demain, oui, tout à fait.
C'est la journée de demain, c'est tout simplement, vous aviez compris.
Algérie-Mexique, la Guinée face à la Gambie, le Sénégal, on en a parlé, sera opposé à la Mauritanie, Tunisie face au Nigeria, le Maroc face à la RD Congo, Japon-Côte d'Ivoire, Mali face à l'Iran, l'Angola face au Mozambique, le Tchad face à l'équipe A' du Niger et le Niger sera opposé à la Sierra Leone. Et tous ces matchs-là auront lieu demain. Et aujourd'hui, c'est joué à Ghana-Qatar, 5-1 pour le Ghana.
Allez, on revient tout de suite.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
Sur Africa Radio, bien sûr, avec à Paris 107.5, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5 et sur DAB+, Lille, Paris, Nantes, etc. Messieurs, avec Christian Chango, avec le doyen Willy Derkono, avec bien sûr Hakim Djelouat et une mise en onde de notre ami Valentin Blanc et voilà à la présentation Lamine Badiane. Messieurs, nous allons continuer sur... Ouais. Quelque part. Mais on va voler, Doyen Uli, vers le Brésil.
On va aller un peu loin. Ouais.
On va vers combien d'heures de vol à peu près? 10 heures de vol.
Ouais.
Voilà, 10 heures de vol pour aller rendre visite à quelqu'un qui va nous parler un peu de Botafogo. Ouais,
à Robson Lima.
À Robson Lima. Et Robson Lima va nous parler d'un joueur que nous avons cherché partout.
On le cherche partout, mais on sait où il est quand même.
On sait où
est-ce qu'il joue dans mon club de cœur, du côté du Brésil, le Botafogo.
Botafogo.
Donc on va essayer
de... C'est pas São Paulo, ton équipe de cœur, pardon.
Non, c'est Botafogo, faut pas me changer. Faut pas me changer. J'aurai des histoires par rapport à Robson, mon ami. Donc il joue à Botafogo, à Rio.
Ah ouais.
Donc on va essayer de voir avec mon ami Robson Lima, Robson da Silva Lima, un ancien joueur de Botafogo qui a évolué à Botafogo dans les années 80 avec Alemão. Avec Josimar.
Alemão, c'était le milieu de terrain, là, non?
Oui, c'est ça, le petit blond. Ouais. On l'appelle comme ça Alemão parce qu'il a une tête d'Allemand.
Une tête d'Allemand, oui.
Ah bon?
Ouais, c'est un surnom, Alemão.
D'accord.
Ça,
okay.
Ça veut dire Allemand.
Allemand.
Donc, il y avait du côté latéral, il y avait Josimar, un ami à moi aussi, qui est parti en Afrique avec moi, et Robson Lima.
Mm-hmm. Ouais. Oui, allez-y, expliquez-nous un peu, parlez-nous un peu de Botafogo avant qu'on.
Botafogo,
c'est un club de. C'est un club de comment?
De Rio. Mm-hmm. Donc c'est le club mythique où étaient passés tous les grands joueurs du Brésil, comme Garrincha, Didi, Zagallo. Donc tous les meilleurs des grands. Et le fameux milieu de terrain, comment il s'appelait? Il avait joué avec Pelé, Gerson.
Gerson, oui.
Il était de Botafogo aussi, donc c'est un club mythique. Ils sont en noir et blanc.
En noir et blanc,
rayé. L'étoile... sur le côté. Étoile solitaire, j'appelle. Estrella solitario.
Estrella solitario. Mais vous, on a votre ami juste au bout du fil. Vous pouvez vous parler, hein, il n'y a pas de problème.
Hola, Irmao. Robson.
Bonjour. Madame, bonsoir, madame Bissé. Bonsoir, mes amis.
Ok, donc. On veut savoir comment évoluer notre frère Salomon Kalou.
Mais avant qu'on ne parle de Kalou, ouais. Robson, c'est quand même quelqu'un qui a marqué Botafogo, qu'il nous parle comment il va lui, okay. Et quel est le temps qu'il fait, etc. Ah ben, c'est... Allô, vous m'entendez, Robson?
Oui.
Allez-y, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir.
Ça va bien, merci. Bonsoir, mes amis. Je suis très, très content de parler avec tous mes amis là-bas. Et comme je parlais, pour moi, c'est un plaisir. Félicitations pour le programme d'Afrique sportive. C'est vraiment fantastique. Hein? Merci beaucoup. Et ici, oui. Tout le monde content avec Kalou. Avec Kalou, à Botafogo, tout le monde content avec lui. Et je pense que c'est une représentation d'Afrique et pour le monde entier. Avant de jouer africain ici, de Nigeria, à Vitória da Bahia, mais c'est une représentation de bons noms. Comme Kalou, tout le monde content, tout le monde, c'est très très bonne représentation du continent africain, Kalou.
Ouais. Parce qu'il voulait dire qu'avant Kalou, un Nigérien qui a fait une bonne impression au Brésil, c'était Oubukiri, qui a joué à Metz après, Ricardo Oubukiri, il s'appelle Kiri, donc c'est lui qui a représenté un grand attaquant qui a joué à Metz par la suite. Donc, pour l'instant, c'est Kalou qui représente l'Afrique. Donc, pour lui, c'est l'ambassadeur du football africain au Brésil actuellement.
Alors, quelles sont les qualités qu'ils ont vues, Botafogo a vues sur Kalou pour pouvoir le prendre aujourd'hui?
Bon, trois, quatre choses, c'est mon opinion.
Oui.
Kalou, c'est des premières choses, non?
Oui.
Bon comportement, éducation et sportive.
Ok. Lui,
fantastique. Et après, jouer qui joue avec le groupe.
Ouais.
Troisième, la qualité personnelle de lui, non, la technique de lui. Et quatrième, c'est un jouer de bonnes conditions qui se maintenait toujours l'esprit sportif. Donc, c'est quatre choses, et mon opinion, que lui, et Botafogo, que vous connaissez, que Botafogo, c'est un grand club.
Ouais.
Et que vous connaissez, que vraiment, c'est une bonne opportunité, et publicité. Donc, jamais Botafogo va faire une bonne publicité com um jouer que c'est pas intéressant au niveau sportif. Donc, je pense que Kalou, c'est ça que Botafogo a regardé, Kalou. Donc, de complète. Éducation sportive. Donc, éducation sportive, généralement, c'est comme ça. Bonne éducation du terrain, bonne éducation derrière le terrain, socialement. Donc, ici, lui démontrer à nous que l'opinion de tout le monde qui parlait pour que lui vienne en Brésil, c'est correct. Lui, toujours bon comportement. Et lui, des groupes, tous les joueurs aiment beaucoup lui. Et lui, maintenant, il ne joue pas beaucoup, mais c'est très, très important pour le groupe. C'est fantastique, il rigole beaucoup, il ensine, il danse beaucoup africain. il danse africain, il interagit culturel artistique. Et lui, il ensine comme danse africain,
ouais.
Et lui apprend à danser samba à Rio aussi.
Okay.
Ça, c'est vraiment fantastique.
Il a signé pour combien de temps à Botafogo?
Je pense que c'est l'année prochaine, juste l'année prochaine, la fin de l'année prochaine.
Et deux ans.
Et Botafogo fait beaucoup de publicité pour lui, et les supporters de Botafogo beaucoup contents. Comme je te parlais,
ouais.
Et socialement, lui, c'est bon niveau, socialement aussi. Donc ça, je pense que c'est le contrat qui va finaliser décembre de l'an prochain, de 2001.
Ouais, décembre 2001.
Décembre de 2001, je pense.
Christian Chango, une question pour...
Bonsoir Robson. Moi, ma question, elle est juste toute simple. Par rapport à Botafogo, comment a été accueilli Salomon Kalou du côté du Brésil?
Bonsoir, Mémé, ça va?
Ça va, merci Mémé. Beaucoup.
C'est le contact. Avant de Kalou, il va arriver Touré, le milieu de terrain.
Oui.
Avant. Botafogo contacté. Et bon, Botafogo fait beaucoup de j'ai oublié la parole en français, investigation au comportement.
Investigation.
Investigation, oui. Investigation pour ce comportement. Et socialement, c'est bien pour le supporter. Comme je te parlais, Botafogo, c'est un gros club. Donc, c'est beaucoup de supporters. Donc, ça c'est contacté un agent. Et Botafogo, avant de lui négocier avec Thuram.
Thuram,
non, comment ça s'appelle Thuram, c'est le milieu
Hertha
de
Berlin.
Coche de Marseille.
Ouais.
C'est Thuram, non? C'est Thuram, ça s'appelle Thuram, non?
Non, c'est.
Comment s'appelle le milieu de.
C'est Yaya Touré. Yaya Touré qui voulait.
Yaya Touré
qui voulait avant.
Oui, Yaya Touré.
Ouais.
Donc, c'est pas marché avec Yaya Touré.
Ouais.
Et après, Botafogo intéressé à Kalou. Je pense, mon opinion personnellement, que c'est faire très, très fantastique pour moi. C'est mon raïs, non? Ça, c'est mon raïs. Moi, très content pour beaucoup de choses.
Il dit que c'est sa racine.
L'initiative de Botafogo.
Ouais. il est en train de dire que l'Afrique, c'est sa racine. Donc, il est très content pour Kalou.
Mais est-ce que ça veut dire, Robson, que d'autres joueurs peuvent venir après, peut-être, après, si par exemple ce n'est pas renouvelé pour Kalou, d'autres joueurs, est-ce que vous avez vu sur le continent africain des joueurs, est-ce que vous avez entendu parler de joueurs qui pourraient rejoindre Botafogo, justement?
C'est beaucoup de joueurs, hein. Le continent africain, c'est beaucoup de top joueurs, beaucoup. C'est ça moi, mon corps,
ouais.
C'est pour ça. Je pense que Kalou ouvrit.
Ça a ouvert.
Ouvert la porte. Ouais. Kalou a ouvert la porte.
Et si
vous deviez prendre un joueur, vous, actuellement, de qui vous pourriez prendre exactement? Sadio Mané, par exemple?
Je n'ai pas compris. Quoi?
Si vous deviez prendre un joueur africain, là, au niveau Botafogo. Au niveau du club de Botafogo, vous auriez pris qui? Sadio Mané?
Sadio Mané de Liverpool?
Mané, fantastique. C'est ça que j'aime beaucoup. Hein. Et ça, c'est maintenant fantastique. C'est représentation à niveau mondial. Hein. Comme faire des fois passer, comme ça s'appelle, que. Qui maintenant c'est le président de la République de Libéria,
Jean Joéa, bien sûr.
Oui, donc ça manière fantastique, c'est mon représentation à niveau mondial. Donc ouais. Ça, en Botafogo, c'est fantastique. Hein. Je suis supporter de Botafogo. Donc ça, ma famille, c'est Botafogo. Willy,
même moi.
Après Willy, c'est Botafogo.
Même moi, c'est Botafogo. Hein.
C'est Botafogo.
Même moi.
Willy, c'est Botafogo.
Fogão, no coração. Pour sempre. Hein.
Oui.
En tout cas, on a de bons joueurs ici. Il faudra venir. On a de bons joueurs ici, Robson. Il faudra venir. Il y a des joueurs qui s'appellent Lamine Badiane. Il y a un joueur qui s'appelle Christian Chango. Vous voyez, donc tout ça, c'est des bons joueurs.
Il y a un attaquant qui s'appelle Willy Dorkenou.
Non, lui, il est vieux, lui, c'est fini.
Willy Dorkenou, il est en Brésil. Je vais parler de choses, mais pas. Bon, la radio, beaucoup de... Les gens qui écoutent la radio, je vais parler une chose de Willy.
Mm-hmm.
Willy arrive à Rio de Janeiro, le maillot de lui numéro 9, et lui, il marquait beaucoup de buts Louis Laprade, beaucoup de bières.
Attention, il y a sa femme qui écoute là.
Oui, mais après c'est impossible de parler à la radio.
Oui, Robson, j'ai marqué deux buts. Il y avait Paulo César, il y avait tout le monde. Avec Ronaldinho. Ouais.
Mais il y avait beaucoup de bières.
Oui, tout le monde aime beaucoup. Oui.
Ok. En tout cas, merci. Christian, je dis Christian.
Muito obrigado.
Christian ou Hakim, des questions pour notre ami depuis le Brésil?
Non, je pense que tout a été dit. Juste saluer Robson.
Merci Robson.
Bonsoir et merci beaucoup.
En tout cas, faut le surveiller pour nous. Hein, faut surveiller.
Et Kalou, hein.
Kalou pour nous. Et puis, s'il peut venir à la radio pour parler un peu de sa vie
ouais,
là-bas au Brésil,
ouais.
À Botafogo, il n'y a pas de problème. Hein, faut lui dire.
C'est moi qui
vous remercie. Ok, merci.
Obrigado.
Pour tout le monde, merci beaucoup. Bénédiction.
Merci
beaucoup.
Muito obrigado, irmão.
Coronavirus. Okay. Obrigado.
Merci beaucoup. Merci.
Merci,
mes amis. Ciao.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
Voilà, c'est des moments sympas comme ça où on essaie de voir.
Plaisir, hein.
On essaie de voir un peu nos joueurs, comment ils se comportent de l'autre côté.
Un petit tour du monde,
Ouais, ouais, exactement. Savoir Salomon Kalou va bien.
Ouais, il va bien. Donc, il s'éclate très bien.
Il s'éclate. Ouais. Il est poli.
Très poli.
Il s'occupe de tout, etc., etc. En tout cas,
Willy est un bon joueur de foot, c'est confirmé.
Un attaquant, je dis.
Non, attends. Il a dit que Willy était un très bon joueur de foot.
Après
avec la bière. Avec la bière. Bon, messieurs, donc on va continuer donc après ce jingle Christian Chango, on va bien sûr parler des transferts et ce sont les transferts de certains de nos joueurs africains sur le continent et hors du continent. Voilà, c'est parti. Alors, messieurs, d'abord, on a quelqu'un du côté du standard, le temps que...
Bandera.
Oui, monsieur Bandera. Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Bandera.
Bonsoir. Yo.
Christian Chango, vous nous préparez les transferts, les principaux. Voilà, ok. Monsieur Bandera.
La santé,
oui. Ouais, merci beaucoup, monsieur Bandera. On vous écoute.
Oui, bon, je vous appelle, en fait, je vais vous annoncer une très très bonne nouvelle puisque dorénavant Africa 22 Sport, l'émission que je défends vigoureusement du côté de la Bretagne, a un nouveau site internet.
Ah, bravo, félicitations.
Merci beaucoup. Le but de cette site, c'est de relayer 24/24 en partenariat avec des clubs sportifs bretons, les accessoires équipementiers qui n'ont pas besoin. Moi, je les envoie par conteneur là-bas pour organiser des événements éco-citoyens, pour sensibiliser les enfants, pour être vraiment au diapason du monde du sport.
Bravo, donc, bravo Bandera, belle initiative.
Ah, voilà. J'ai compris.
Merci beaucoup, parce que le but de cette plateforme, vous n'avez rien à faire, vous tapez tout simplement www.africa, comme un C, 22, comme le département de Côte d'Amour, .com. Vous avez toutes les informations de Alpha Omega sur cette
Est-ce que vous connaissez Surzur?
Césure.
Surzur à côté de Vannes.
Vannes, oui, ça me cause, ouais.
Voilà, on risque de se retrouver là-bas bientôt, Bandera. On passera vous voir.
Ouais, on les appelle là-bas les pays de Cornouailles.
La Cornouaille, exactement.
Donc, c'est Black Braise, hein, c'est Breton Noir. Donc,
c'est ça.
Bien, c'est ce que c'est. Donc, là, le but de cette site, les confrères, c'est quoi? C'est-à-dire, quelqu'un qui va sur ce site, moi, je mets les accessoires publicitaires sur la plateforme et en contrepartie, il me fournit les accessoires de deuxième vie. Là, là où nous parlons, j'ai ma collaboratrice bretonne qui s'appelle Anne Lacoste, qui revient au pays des éperviers le mercredi. Et moi, je vais le recevoir physiquement en Bretagne pour faire le bilan sportif des événements éco-citoyens qu'elle a contribué de Thiviers et de côté d'Agou, dans la région des plateaux. Le poumon vert du Togo, le joint musicien, c'est ce dont je parle. Donc,
si je comprends bien, vous récupérez des équipements de deuxième vie.
Voilà, c'est-à-dire
le social, quoi.
Allô, grosso modo, si moi je te mets sur la plateforme de africa22sport.com, donc moi je fais la pub, tout ce qu'on veut. Et puis moi, en contrepartie, puisque au niveau des événements sportifs, tout ce que je contribue ici au niveau sport, donc je leur fais un petit clin d'œil. Et puis les accessoires, souvent les gens font les opérations comme Emmaüs, tout ce que les gens ils n'en ont pas besoin. Je dis pourquoi pas penser en Afrique avec les. On a organisé des événements du côté Écotraille, du côté Dagou. Les enfants, ouais. Ils ont utilisé les accessoires que les gens n'ont pas besoin ici. Ils ont la plus belle expression du monde qui s'appelle le sourire.
C'est en quelque sorte une action solidaire, en fait.
Oui,
c'est ça. Ouais. Moi, ma feuille de route actuellement, l'émission que j'anime ici depuis plus de 7 ans, ici en Bretagne, le but, je mets le zoom sportif sur sport, santé et solidarité. Sport, santé, solidarité. Parce que pour taper dans un ballon de football ou d'autres disciplines, si tu n'as pas le parfum qui s'appelle le sport, qui s'appelle la santé, tu ne peux pas taper dans un ballon de football. Hein. Donc, moi, je mets le zoom sur vraiment sensibilisation éco-citoyen.
Ouais.
Et le côté de sensibilisation et vraiment du développement durable à travers la sensibilisation des choses que les gens n'ont pas besoin ici, ce n'est pas grave. Donc nous on sensibilise avec des correspondants de. J'ai tout expliqué de A à Z sur le site, comme ça même des correspondants qui sont du côté de Ho Chi Minh, du côté de Vietnam. Comme ça, et d'abord c'est de mettre l'Afrique avant tout sur la vitrine sportive. Et que si je dis par exemple du côté du Vietnam, c'est-à-dire si les gens veulent faire un événement qui s'appelle le triathlon, les athlètes africains qui vont courir en Vietnam, le gars va me relayer depuis le Vietnam.
Et nous, c'est qu'est-ce qu'on gagne dedans?
Justement, moi je dis si vous êtes en partenariat.
Oui, alors quel genre de partenariat vous voulez? Dites-nous. Dites-nous, on est tout ouïe là. Parce que là, vous faites la pub là, mais là, on est quoi nous?
L'équipe. Et attends. L'équipe de Africa Radio, moi je dis d'abord, il ne faut pas aller plus vite. Je vais vous laisser visiter le site d'abord et vous allez me dire au retour qu'est-ce que vous en pensez.
D'accord.
Puis après, pourquoi pas? Je dis, si je vous oriente parce que vous êtes la grande sœur, vous êtes la radio africaine.
Ouais,
c'est la première radio panafricaine.
Ouais.
Pour quelle raison moi, vous faites des yeux comme ça? Je dis,
pourquoi
pas organiser un jour un tournoi de football où Africa Radio se déplace et Africa Radio Sport
en Bretagne.
Vous savez combien est payé un garçon comme Christian Chango, hein, c'est quelque chose comme 40 000 par mois.
Il faut me laisser en dehors de tout ça.
Ouais, c'est ça, la valeur humaine ici, mon Dieu. D'accord, non mais je rigole. Ok, en tout cas, merci beaucoup.
Hein,
merci d'être venu, mon cher Bandera. Il n'y a pas de souci. On a bien compris, Messieurs, Christian Chango, alors
oui,
on va peut-être déjà voir du côté de la Bretagne s'il y a
des transferts.
Faire plaisir à Bandera.
De joueurs.
C'est ça, coach. Et juste avant, pour être complet, donc on a parlé Ghana-Qatar tout à l'heure, 5-1. Le Burkina Faso affrontait Madagascar, victoire 2-1 du Faso avec notamment un but de Bertrand Traoré.
Mais décidément.
Et le Togo. Ouais. Le Togo a joué. Le Togo jouait face au Soudan. Un but partout entre le Togo et le Soudan. Ça jouait du côté de Tunis, en Tunisie. Donc c'était pour saluer nos amis
congolais. C'est un bon résultat quand même.
C'est un bon résultat. Mais dites-moi, votre entraîneur, là, quand même, il faudrait qu'il pousse. Hein.
Ouais, mais il faut qu'il parte. mais selon moi.
Hein. Pourquoi? Pourquoi qu'il parte?
C'est
un bon entraîneur.
C'est le
sorcier blanc.
Il y a Abalo, sorcier blanc. Parce que les sorciers, ce sont les joueurs. Il n'y a jamais de sorcier entraîneur. Donc, il ne faut pas me faire dire ça. Les sorciers, ce sont les
Leroy,
joueurs.
Claude Leroy, il s'agit de lui, bien sûr.
Le sorcier blanc, c'est du n'importe
quoi. Donc, vous avez fait match nul contre le Sud-Sudan.
Oui, mais c'est un bon score.
Mais on joue au foot au Sud-Sudan.
Oui, mais c'est des anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique aussi.
Oui, d'accord.
Si les gens, ils ont la même mémoire.
En 1949, oui.
Mais le Soudan a gagné la Coupe d'Afrique.
Mais monsieur, on est en 2020. Il faudrait que le Togo, qui quand même est une des grandes nations de football. Hein,
oui, le Togo était qualifié quand il s'agissait de 8 représentants. Donc, pour la taille de ce pays, être qualifié avec 1,5 million d'habitants, être qualifié avec 8 représentants au niveau du Cameroun en 72, il fallait le faire. Donc c'est un grand pays de football. Mmh. Même si c'est mal géré actuellement, c'est autre chose.
Ouais. Ça, c'est pas moi qui le dis. Faut... Comme dirait Christian Chango, il faut me laisser en dehors de tout ça.
En tout cas, messieurs, pour les transferts, donc voilà, on a été complet sur les résultats des matchs amicaux. On va parler un peu de la page Mercato, la page transfert, hein, qui a animé ces deux derniers mois, avec notamment du mouvement des côtés de nos Africains. On va donner un peu les principaux mouvements et on va en donner d'autres. Le plus gros transfert qui a concerné les Africains, c'est bien sûr Victor Osimhen. On en a parlé, l'international nigérian de 21 ans qui a quitté Lille pour Naples pour 70 millions d'euros. Je précise, je donne les prix hors prime et tout ce qui va avec derrière, hors ce que l'agent va manger, tout ça. Donc en
or,
gros,
or.
Donc 70 millions d'euros, le transfert d'Osimhen de Lille vers Naples. Ensuite, Thomas Partey, c'est dommage qu'Adama ne soit pas là, puisque la semaine dernière, il nous disait qu'il partit, qu'il bougerait pas. Il est parti du côté de Arsenal, donc transféré de l'Atlético Madrid à Arsenal pour 50 millions d'euros. On rappelle Thomas Partey, 27 ans, international ghanéen. Arsenal a tout simplement levé la clause de transfert de 50 millions.
Ouais, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est un grand joueur aussi.
Ouais, mais
et
c'est
on,
beaucoup.
Et on a
ouais,
vu, mais... on a entendu la rage du Cholo Simeone dans les médias argentins qui critiquait ouvertement ses dirigeants pour avoir laissé partir un de ses éléments principaux. Et donc, rage du côté de Cholo, mais Thomas Partey a signé du côté d'Arsenal. On enchaîne avec deux internationaux marocains, Hakim Ziyech, 27 ans, qui a été transféré de l'Ajax vers Chelsea pour 40 millions d'euros. Achraf Hakimi, international marocain de 21 ans, lui a été transféré du Real Madrid vers l'Inter Milan, pour 40 millions d'euros. Ensuite, le cinquième transfert le plus important, c'est Amad Diallo Traoré. C'est un jeune international ivoirien de 18 ans qui évolue du côté de l'Atalanta Bergame en Italie, un des Wonder Kids, comme on dit à la sauce anglaise. Donc, qui a signé pour Manchester United pour 30 millions d'euros.
C'est pas possible.
18 ans. Donc, suite, vous savez, quand un joueur étranger hors Europe vient signer et va du côté de l'Angleterre, il y a tout ce qui est la paperasse avec les permis de travail. Donc, il y sera à partir du mois de janvier. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, Amad Diallo Traoré, 18 ans, un ailier droit. Attention, en espérant qu'il ne se brûle pas les ailes du côté de Manchester. À la limite, ça aurait été mieux qu'il reste à l'Atalanta. Au moins, il jouait, il était en visibilité. Mais bon, c'est un choix de carrière. 18 ans, 30 millions d'euros.
Il y a un Marocain aussi, hein, le retour du milieu de terrain marocain, donc du côté d'Angers. Il a quitté Southampton, libéré par le club anglais Southampton, pour rejoindre Angers. Le SCO d'Angers, c'est Sofiane Boufal. Mmh. Voilà, pour une durée, il s'est engagé pour une durée de 4 ans avec la formation de Stéphane Moulin.
Édouard Mendy, messieurs, on en a parlé, 28 ans, international sénégalais, a signé pour cet été donc, du côté de Chelsea également, qui a recruté beaucoup d'internationaux africains. Il est parti de Rennes vers Chelsea pour 24 millions d'euros. Dans les autres transferts, Éric-Maxime Choupo-Moting, 31 ans, international camerounais, qu'on a vu briller lors du Final 8. Il a signé libre, il était libre, hein, puisque son contrat avec le PSG était terminé, et il a signé du côté du Bayern Munich pour un an, plus un an de contrat, donc pour Éric Choupo-Moting qui s'est engagé avec le Bayern Munich. Mmh. Voilà pour les transferts principaux. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Ben Lameri, comme on disait la semaine dernière, l'international algérien, le défenseur de 30 ans qui a quitté donc, son club en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, ou au Qatar, excusez-moi. Il a signé du côté de Lyon pour 2 ans, donc le défenseur central qui s'engage, encore un champion d'Afrique qui s'engage cette fois du côté de Lyon. Bonne nouvelle, qui va venir renforcer la défense lyonnaise notamment. Et aussi, autre transfert important qui n'a pas eu lieu, c'est Mbaye Niang qui a un peu alimenté tout notre été. Il devait partir peut-être du côté de Marseille. Finalement, peut-être signé en tant que joker du côté de Saint-Étienne. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Il reste du côté de Rennes où il va être mis en concurrence avec Guirassy. On rappelle que l'entraîneur Julien Stéphan, lui, voulait garder Mbaye Niang. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Mbaye Niang ou pas d'être resté, lui qui espérait partir? On va voir comment il va pouvoir se reprendre dans les prochaines semaines.
Alors, une question. On a vu que quand même, il y a beaucoup d'Africains qui ont bougé.
Ouais.
C'est dû à quoi? Avec le Covid, on avait parlé de beaucoup de prêts parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent.
Ouais. On a vu que dans ce Covid-là, il y a eu beaucoup de transferts des Africains. Ouais. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les Africains sont moins chers ? Même si on a vu quand même des transferts à 50 millions d'euros,
ouais.
C'est souvent des options, des levées d'options d'achat. Qu'en est-il au juste ? Est-ce que réellement cette maladie du Covid a permis aux Africains de se faire vraiment recruter au niveau de différents clubs ?
Depuis longtemps, depuis que le football existe, l'Afrique est venue en aide au club européen.
C'était des joueurs d'appoint, on est d'accord.
Depuis le début du football en Europe, l'Afrique a toujours aidé le football européen à progresser.
Oui, mais...
Donc je peux retourner vers le Eusebio et Colonna et compagnie. Donc le problème, c'est le talent des joueurs africains qui fait qu'ils sont recrutés ici en Europe.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas.
Depuis quand ça n'a pas été le cas ?
Non, mais rappelez-vous qu'à un moment donné, les gens faisaient leur équipe et venaient chercher des joueurs africains comme des joueurs de complément. Ils venaient compléter un effectif.
Oui, mais à l'époque, ils avaient des joueurs et pour combler le manque de bons joueurs. Maintenant que les joueurs deviennent de plus en plus médiocres, parce qu'il ne faut pas... Il faut noter que le football devient de plus en plus. Le niveau est médiocre en ce moment. Donc, on doit compléter les clubs par des joueurs africains qui sont les plus talentueux au monde. C'est ce que Robson venait de nous dire. Parce que quand on parle de football africain, les gens essayent de parler des stades, des infrastructures et compagnie. Je ne parle pas de ça. Je parle du talent intrinsèque des joueurs. Donc, l'Afrique a plus de joueurs compétents que partout dans le monde entier. Je ne le dis pas parce que je suis africain. C'est un constat. Je suis agent de joueur, je vais partout dans le monde. Je suis reçu comme un pape au niveau du Brésil, le pays du football. Donc, c'est au niveau du talent que les Africains sont recrutés. Ce n'est pas une question de prix. Parce que les gens veulent nous tromper sur les prix. Non. C'est vrai qu'ils ne coûtent pas cher. En plus, tu as vu les plus-values qu'ils font avec les joueurs africains, comme Osimhen, par exemple.
C'est ça que je suis justement
donc
en train de
dire. On ne les recrute pas parce qu'ils sont moins chers. On les recrute parce qu'ils sont bons.
Mais oui, alors un garçon comme Osimhen a été recruté combien avec Christian Shango au départ ?
Osimhen, ils avaient investi à peu près 20 millions d'euros. Je vais vous donner le prix exact, mais c'était cet investissement-là qui avait été fait Lille.
C'est comme le joueur de l'équipe du Tout-Puissant, l'avant-centre de Tout-Puissant Mazembe, à qui on avait proposé quelques...
Pardon, coach, excuse-moi. Précisément, c'était 13 millions d'euros.
Aujourd'hui, on est à 85 millions.
Hors prime, il avait recruté 13 millions d'euros le LOSC. Donc, ouais. Après, juste pour préciser, après je te laisse le ballon, Willy, pour le cas d'Osimhen, Lille, ça faisait très longtemps qu'il l'observait. Et après le prêt un peu raté de Victor Osimhen et qui s'était relancé, le prêt raté en Allemagne, après il s'était relancé du côté de la Belgique, Lille a fait ce choix-là et ils ont été très bons. On sait que depuis le transfert de Neymar, quand même, il faut être réaliste, les prix ont augmenté quand même d'une très forte manière et Osimhen a été très bien vendu par Lille et c'est surtout aussi compte tenu de son âge. Un attaquant de 21 ans, on sait qu'on va pouvoir le former, grandir avec.
Et il est bon.
Il est très bon.
Mais Lille et fait Naples, du trading.
Lille fait du trading. Ouais, et okay. Naples, si jamais Naples doit le vendre, Naples, ils ne vont pas le vendre en dessous de 80 millions aussi. Donc Naples aussi derrière, même si avant tout c'est l'aspect sportif, derrière Naples va pouvoir retomber sur ses pattes sans aucun souci.
El Cholo Simeone qui pleure le départ de Partey par exemple. Essaye de pleurer un joueur de 27 ans qui quitte un club. C'est parce que c'est un talent qui est en train de quitter et le club. Mais c'est tout. Donc le problème des Africains, c'est une question de talent, c'est pas une question ni de provenance, ni de couleur de peau et compagnie. Ils sont talentueux.
Ils sont talentueux. Après, c'est vrai qu'on a souvent eu ce débat, notamment Salim, qu'on salue encore à nouveau, à qui on souhaite
bon rétablissement.
Bon repos, Salim.
Et qu'on embrasse, oui.
On a souvent eu ce débat où on parlait de la valeur du joueur africain. Et quelque part, c'est ça que la question que pose le coach aussi. Comme est-ce que du fait comme la valeur, hormis les top stars comme Sadio Mané ou Mohamed Salah, pour sortir que comme exemple, qui ont une valeur très 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 très, très élevée, est-ce que du fait que le joueur africain soit un peu payé moins cher entre guillemets, Est-ce que ça n'a pas favorisé les mouvements, puisqu'on voit pour le pendant le Covid, il y a quand même eu beaucoup de prêts ou d'options d'achat où les clubs ont essayé de s'arranger. Au final, on voit Achraf Hakimi, il a 21 ans, il a été recruté 40 millions d'euros. C'est du pain béni, 40 millions d'euros. Mais
Hakimi, ça fait longtemps qu'on en parle. Avant même le Covid, rappelez-vous, c'est lui qui jouait à
40 millions d'euros.
Il jouait à Dortmund.
À Dortmund, c'est Dortmund, ça. Il a été prêté 2 ans à Dortmund par le Real. Il a été formé à Madrid. Il est né en Espagne. Il a été formé à Madrid. 2 ans à Dortmund. Et là, il part du côté de l'Italie, mais il part pour 40 millions d'euros. Si ça avait été, il a le même âge que Trent Arnold, par exemple, le défenseur de Liverpool.
Oui.
Si c'était lui qui avait été transféré, Trent Arnold, le prix aurait été doublé.
Oui.
Et on va pas se mentir là-dessus, c'est vrai.
Oui, Christian, c'est pas grave, parce que s'ils sont transférés même à 10 000 euros, on voit vers la fin qu'ils sont transférés, ils repartent à 90 000 à 100 000 euros. C'est pas grave, c'est comme le cas de Sadio Mané. Moi, je dis que c'est le talent qui parle. C'est pas le prix d'achat au départ ou le prix de. Les plus-values, non. Le talent se situe au niveau des footballeurs africains.
Mm-hmm.
Mais c'est tout. Parce que c'est pas le prix qui fait le talent des joueurs. Moi, je vois des joueurs qui jouent en première ligue. Ma grand-mère est mieux qu'eux.
Mais quelquefois, le prix du joueur influe un plus par rapport à son niveau.
C'est par rapport à des gens qui n'ont aucune idée sur ce qu'on appelle le football. Il y en a plein.
Après, c'est vrai que ce que le coach souligne aussi, c'est surtout, on va parler un peu par exemple de l'aspect impact que peut avoir le prix d'un transfert. Par exemple, si vous êtes payé moins cher, on va dire qu'entre guillemets, il y a moins d'entente, vous avez moins de pression.
Ouais, c'est ce que
je dis. Exactement. Le jeune Amad Diallo Traoré de 18 ans, qui vient à peine d'avoir 18 ans, il est transféré à United pour 30 millions d'euros. Ça, quand il va y aller au mois de janvier, ça va quand même lui mettre une pression. Après, c'est le sport de haut niveau.
Mais on a vu des Dembélé. Hein.
On a vu des joueurs s'effondrer pour moins que ça. Donc, c'est vrai que l'impact que peuvent avoir le prix des transferts est pas négligeable. Après, le talent, encore une fois, tu as raison, Willy. Il n'y a que le talent qui
définira. Et ce n'est pas le prix qu'on met sur moi avec mes atroces qui feront de moi un grand joueur. Tu comprends ce que je dis?
Bien sûr. Ouais. Mais si on met 80 millions d'euros sur toi, Willy, arthrose par arthrose, on va vouloir que tu plantes.
Hein. Oui, mais je vais jouer avec une jambe.
C'est clair.
Donc, ouais,
c'est clair. Messieurs, il nous reste 2 minutes, peut-être en tour de table. Christian Chango, allez.
Oui, rapidement, pour la Guinée, on m'a envoyé des messages. Oui, donc la Guinée ne jouera pas, malheureusement, à cause des cas de Covid qui ont été contractés dans l'équipe. C'est
vraiment ce Covid. Hein.
Un fléau qui aura perturbé cette journée. Donc bon rétablissement à tous nos Africains et à tous ceux qu'on connaît qui sont touchés par cette saloperie de virus. Et voilà, pas de Guinée pour les prochains matchs amicaux.
Ouais, et bravo aux petits pays, entre guillemets, d'Afrique qui continuent toujours par nous surprendre.
Alors, rapidement, si on peut avoir mardi 13, le programme Algérie-Mexique.
On va donner les matchs principaux, Algérie-Mexique, Sénégal-Mauritanie.
À la haie,
exactement. Sénégal-Mauritanie à Thiès, Tunisie-Nigeria du côté de l'Autriche, Maroc-RD Congo à Rabat, Japon-Côte d'Ivoire du côté des Pays-Bas, Mali face à l'Iran, le Niger face à la Sierra Leone et le Togo a déjà joué, on le rappelle, un but partout face au Soudan. Bravo aux Togolais.
Bravo aux Togolais qui se reprennent bien. Hein.
Ouais.
Et Tchad, Niger contre Tchad à prime. Hein.
Exactement, c'est ça, à Niamey.
Et Niger, Sierra Leone, à Niamey aussi.
L'équipe première, exactement.
Et voilà, donc voilà, tout est dit. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Si Dieu le veut. Merci beaucoup.
Merci.
Ciao.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio. We'll be right back.